France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Apprenez à connaître son nom, Brigitte Henriques, à son poste, elle est première femme. C'est une ancienne footballeuse, elle est d'ailleurs encore, toujours présidente, vice-présidente de la Fédération Française de Football. Présidente, ça viendra juste après, bien sûr, derrière Noël Le Graët pour l'instant. Désormais, elle est présidente du Comité National Olympique et Sportif Français. Ça veut dire que les JO de Tokyo lui servent d'exemple à suivre ou à ne pas suivre d'ailleurs. Mais Paris 2024, réussir les Jeux à Paris est, dans votre définition de poste, des Jeux qu'il va falloir nous apprendre à attendre et nous apprendre à aimer aussi, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Dans sa besace aussi, peut-être surtout, vous nous le direz, féminiser les instances, pousser les femmes à y faire leur place. Il y a une ministre, une présidente du Comité National Olympique, il y en a quelques autres, mais pourquoi pas de nouvelles premières. Le sport d'ailleurs a fait son MeToo, mais pas sûr qu'il l'ait fait totalement. On en parlera également. Dans sa besace, Brigitte Henriques a aussi, à la sortie d'une crise sanitaire, des fédérations, des petits clubs, surtout le vôtre peut-être, qui sont parfois en mauvais état. Le sport a besoin d'être relancé, les enfants ont besoin de se remettre à courir. Brigitte Henriques est dans le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et bonsoir à vous, Brigitte Henriques.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir au téléphone sonne. Stéphanie Mora est là également. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Du service des sports de France Inter. Évidemment qu'on vous le resserre à toutes les sauces, Brigitte Henriques, et on va y passer un petit moment parce que vous aussi, vous sentez bien l'importance que ça a, le fait d'être la première femme à ce poste-là. Quand vous avez pris vos fonctions, vous avez encouragé d'autres à suivre. Il faut oser candidater, vous avez dit. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux des Brigitte Henriques. Ça veut dire qu'elles y vont pas, les femmes, dans les fédérations, dans les hautes instances du sport en ce moment?
Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont légitimes à y aller, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont déjà pratiquantes, dirigeantes. Mais c'est vrai que d'oser candidater et de se dire qu'on est légitime, c'est vrai que ça demande un travail sur soi. Je pense que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Moi, ça m'a pris deux bonnes années, en tout cas, pour me dire que j'étais légitime à pouvoir être présidente. Voilà. Et en tout cas, j'ai dédié cette victoire aux femmes, parce que j'espère qu'elles aussi, elles vont oser et se sentir aussi légitimes. C'est vrai qu'on a besoin de ça, de se dire qu'on peut y aller. Et je disais yes we can. Et ouais. Si moi j'ai pu le faire, en fait, ben j'espère qu'il y en a plein d'autres qui se sentiront aussi capables d'y aller, parce qu'il faut.
Et c'est vrai qu'il y a 108 présidents de fédération, il y a 14 femmes. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Et ce qu'on se dit aussi, surtout, c'est que les femmes arrivent quand il y a une catastrophe. En fait, on l'a vu dans le patinage, par exemple, après une énorme affaire MeToo, on y reviendra. On a l'impression, comme ça, que encore aujourd'hui, dans le sport, on va les chercher un peu pour être l'arbre qui cache la forêt, et aussi parce que comme il y a eu une grosse catastrophe avec une femme à la place, ça ne pourra qu'aller mieux, non? Il n'y a pas un peu de ça?
Alors là, pour le coup, moi, j'ai aussi dédié cette victoire aux hommes, parce que j'ai été justement élu et porté par 108 présidents de fédération, enfin pas 108 puisqu'il y avait 14 femmes. En tout cas, ça bouge, parce que je sais que là, ceux qui m'ont élu disaient voilà, on a vraiment envie d'un souffle nouveau, de quelque chose de nouveau. Donc je pense que il y a aussi le fait que j'ai envie, cette mixité, elle monte malgré tout. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais voilà, je pense que moi je vais m'atteler, en tout cas comme je l'ai fait à la Fédération Française de Football, à ce qu'il y ait plus de femmes déjà dans la pratique, dans l'encadrement, mais aussi avec les femmes dirigeantes. Et je crois qu'on a, en tout cas avec ce symbole-là, j'espère vraiment que ça enclenchera encore plus les choses.
C'est un monde c'est quand même un monde de mâles blancs, mais de bien plus de 50 ans, et sans leur faire injure, votre prédécesseur en avait 73. Vous citez la Fédération Française de Football, Noël Le Graët en a 79, autant que je sache. Ouais, il y a une main à passer, honnêtement. Alors effectivement, il y a une main à passer.
Là, de toute façon, historiquement, vous savez la place que les femmes avaient dans la société, et ont toujours, et on peut encore, bien évidemment, il faut se battre pour être davantage reconnue et avoir davantage de place. Dans le sport, c'était carrément, moi j'ai fait un sport qui était interdit dans les années 40. Quand j'ai voulu m'inscrire à l'âge de 8 ans, on m'a dit, non, on prend pas les femmes. Ouais. Donc il est bien évidemment que tout ce chemin, il est nécessaire à faire. Là, les présidents de fédération, il y a eu un renouvellement à 50% qui a été fait sur ces élections, sur les 108 fédérations. Voilà, les choses avancent. Moi, j'ai tendance à dire que il y a le poids de l'histoire qu'on va pas changer en l'espace de 5 minutes, et il faut que ce soit les hommes et les femmes, en fait, qui soient acteurs de ce mouvement-là. Je dis toujours que la parité, l'égalité hommes-femmes, ou moi je parle plus de mixité, parce que la mixité c'est le moyen d'arriver à cette égalité, ça se décrète pas, en fait, ça se construit, et voilà.
En même tout pas cas, avec c'est... un quota, même pas avec des quotas.
Ah si, il faut. Alors moi je parle.
Donc faut y aller au forceps un peu quand même. même.
Oui, bien sûr, parce que pour moi, en fait, si vous voulez, sur la parité, mais c'est pas que dans le sport et sur l'égalité homme-femme, il y a deux choses vraiment qui sont très importantes. Il y a ce que j'ai dit, c'est vraiment permettre aux femmes de se sentir légitimes, de vouloir y aller. Mais dans le même temps, il faut aussi engager les hommes à être convaincus de cette parité, de cette mixité. Mmh. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui fait qu'on enclenche un mouvement. Et si je vous donne un exemple, à la Fédération française de football, on était 50 000 joueuses en 2011. Aujourd'hui, on est 210 000. Mmh. Et sur les dirigeantes, on était 25 000. On est 38. On est 38 000. Moi, j'ai aussi envie, voilà, avec le Comité national olympique sportif français, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai créé le club de la mixité. Dedans, il y aura des hommes et des femmes, avec des présidents de fédération qui ont enclenché le mouvement, qui vont inspirer les autres présidents, qui vont les convaincre. Et dans le même temps, faire tout le travail qu'il faut pour accompagner ces femmes dirigeantes avec du développement personnel, de la confiance, tout ce qui est renforcement de l'estime de soi, de la confiance. Et en tout cas, je suis certaine que de cette manière-là, avec des objectifs fixés, vraiment un état des lieux d'abord, bien évidemment. Puis de toute façon, il y aura là-bas, avec la loi égalité hommes-femmes en 2024, il y aura l'obligation d'avoir la parité dans les comités exécutifs de toutes les fédérations.
Ça veut dire qu'une grosse fédé, quelle qu'elle soit, un homme, une femme à compétences égales, là, au moment où on se parle, dans les fédés, on choisit la femme.
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un président qui, en tout cas, se posait pas la question de savoir si c'était des hommes ou des femmes, qui mettait des femmes au poste à responsabilité, parce que pour lui, ce qui était important, c'était la compétence. Et je crois que c'est ça, surtout, qu'il faut enclencher. C'est que quand pour moi, je pense que le combat, c'est d'avoir un réservoir avec beaucoup, beaucoup de femmes pour justement permettre d'avoir le choix. Aujourd'hui, c'est pas, en tout cas, dans nos fédérations, c'est pas le cas. Il n'y a pas le choix entre des hommes et des femmes. Souvent, il faut aller les chercher. Et je pense que moi, je veux vraiment m'engager, en tout cas, avec ces présidents de fédération, à leur faire organiser dans ce club de la mixité des appels à candidature de femmes qui existent. Elles existent. Souvent, on dit il y en a pas. Mmh. Si, il y en a plein. Il faut juste leur donner le petit coup de pouce pour les identifier, les valoriser et les accompagner. Et ça, je sais que ça marche.
Pardon, Stéphanie, je croyais que vous vouliez intervenir, mais pas du tout. Et c'est vrai, vous en avez fait la remarque. Vous êtes encore jeune, évidemment, mais vous avez joué au football à une période où le foot féminin n'existait pas. En fait, disons les choses clairement, il n'y avait pas un match à la télé, il n'y avait rien de tout ça. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, ça, quand même? Vous parliez du nombre d'adhérents qui a été quasiment multiplié par 3, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les filles qu'on regarde à la télé. Il y a aussi toutes ces choses-là. Comment on fait pour appuyer encore sur ce levier-là?
Bah, ça, c'est toute ma vie. Ce que vous venez de dire, parce que à partir du moment où moi on m'a pas autorisé, alors je l'ai pas vécu sur le moment comme une discrimination. Quand on est enfant, on dit, enfin moi pour le coup, quand on a dit non, je me suis dit c'est comme ça, vous savez, la banalisation. Et puis finalement, ça a été le combat de ma vie. Et comment on fait? Tout simplement en faisant en sorte que physiquement on soit présente, notamment dans la gouvernance, dans les comités de direction, dans les clubs, parce que dans l'inconscient collectif, en fait, on faisait pas partie de cet environnement-là. Et le fait de nous voir physiquement, on se disait, ah, mais c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on en parle, il faudrait peut-être qu'on fasse ceci ou cela. Donc voilà, ce réservoir-là, il est important. Et c'est comme ça qu'on a fait dans les écoles, bien évidemment, pour casser les stéréotypes. Et c'est vrai que ça a été difficile à un moment donné pour moi, parce que j'étais traitée de garçon manqué. Ouais. Mais voilà, les choses, en tout cas, elles avancent. Moi, j'aurais rêvé, bien évidemment, de faire les Jeux Olympiques. C'était pas fait, parce que de toute façon, ça y était pas. Ça a été reconnu qu'en 96. Voilà, mais ça avance, mais c'est vraiment une histoire de culture. Et là, franchement, pour moi, la plus belle chose qui soit arrivée en France, c'est deux choses. C'est que les barrières culturelles sont tombées. Aujourd'hui, on voit tout à l'heure, devant le stade Charletti, il y avait les petites du PUC et les petits garçons qui sortaient de l'entraînement avec leur maman. Il y avait autant de filles que de petits garçons. Et la Coupe du Monde 2019 aussi, ça a été, ça a changé le regard sur ce spectacle-là avec les femmes. Et c'est une bonne chose.
Ça a changé le regard, mais vous travaillez quand même aussi sur la professionnalisation de ces sportives-là. On parle du foot où c'est plutôt avancé, mais dans d'autres sports, c'est un petit peu plus compliqué. Je crois que vous avez monté un groupe de travail là-dessus cet automne, parce qu'au moment du Covid, on a parlé aussi de l'impact sur le sport féminin. On en est où, justement, là-dessus?
Vous avez raison, quand je parlais de la place des femmes, c'est vrai que dans le sport, il y a encore énormément à faire pour leur permettre de pratiquer, tout simplement, mais aussi de devenir des athlètes de haut niveau qui puissent pratiquer dans les bonnes infrastructures. Ça va justement de vestiaires pour des hommes et des femmes dans chacun des gymnases, dans chacun des stades, que les créneaux soient vraiment partagés, parce que des fois c'est pas le cas. Après, sur la professionnalisation, je veux lancer cet appel là ici ce soir encore une fois. Je l'ai fait des milliers de fois, mais il faut que les sponsors, les entreprises croient sur le fait qu'il faut parier sur le sport féminin, parce que aujourd'hui, d'abord, un, ça coûte pas cher, et deux, ça va rapporter gros, et ça doit rapporter gros, parce que c'est des sportifs, c'est des athlètes, et elles ont des belles histoires à raconter. Et on sait depuis la période Covid et même après que les entreprises, elles ont envie de s'engager pour qu'elles veulent donner du sens en fait à leur engagement. Et ben voilà, le sport féminin, c'est vraiment la meilleure chose, la meilleure raison d'être pour une entreprise de s'engager. Donc faut y aller, faut investir. Et ce groupe de travail dont vous parlez au Comité national olympique sportif français, il y a 7 disciplines en fait, voilà, de sport collectif. Et l'objectif, on s'est dit, voilà, on veut en 2024 être médaille d'or. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on avait tout un pan sur la gouvernance justement pour qu'il y ait vraiment des personnes dédiées dans chacun de ces sports-là. Donc il y avait les 4 sports co-majeurs plus le water polo plus le hockey sur glace. Et puis de se dire aussi sur la pratique, voilà, sur le statut de la joueuse, la jeune joueuse, pour qu'elle ait un statut social, qu'elle soit reconnue. Et puis également sur la performance avec les conditions d'entraînement requises pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Donc voilà, maintenant on a lancé aussi un appel aux partenaires pour pouvoir trouver un partenaire pour ces sept sports-là. Et ce qu'il faut quand même bien dire, parce que présidente du CNOSF, ça veut dire les 108 fédérations. Ouais. Donc c'est un laboratoire pour l'ensemble des autres sports, et là pour que ce soit les filles ou les garçons. Parce que c'est que des belles histoires, toutes ces disciplines-là, et il n'y a pas de sous-champions, de sous-championnes. Donc c'est important aussi de pouvoir tous les aider.
Parce que c'est effectivement ce qu'on va voir au moment des Jeux, et qu'on rappelle peu souvent, c'est que tous les athlètes qu'on va voir, combien sont professionnels ou vivent de leur sport à l'année, finalement très très peu, beaucoup ont un métier à côté, sont obligés en fait d'avoir des partenariats via un métier parce qu'ils n'ont pas le même statut qu'un footballeur, un joueur de tennis, etc. Donc il faut rappeler ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller chercher des sponsors, les ramener vers ces disciplines ou vers ces athlètes, ou ça peut aller au-delà, je pense notamment peut-être à toquer à la porte du ministère pour avoir des aides?
Alors en fait, il y a deux choses. Déjà, avec la création de l'Agence nationale du sport, il y a eu une cellule de haute performance qui a été créé justement pour identifier un certain nombre d'athlètes qui allaient être pris en charge complètement pour pouvoir justement gagner, notamment là à Tokyo, mais aussi à Paris 2024. Et l'autre chose qui existe déjà, ça s'appelle le pack performance. En fait, ce pack performance, il a été créé par le Comité national olympique sportif français. Et en fait, ce pack performance, c'est déjà des entreprises en fait qui sont là pour accompagner des athlètes. Et il y en a de nombreux qui sont déjà accompagnés. Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin. Et d'ailleurs, j'étais avec Thierry Braillard, pardon, cet après-midi avec la fondation du sport français qui a été créée par le Comité national olympique sportif français, et on se disait que voilà, on allait organiser un grand événement avec beaucoup d'entreprises, avec 100-150 entreprises prochainement, pour justement les faire venir et leur dire voilà, regardez les belles histoires qu'on a là, regardez les belles histoires que ça peut devenir, ça peut arriver pour Paris 2024, donc aidez-nous à justement leur permettre d'augmenter leurs ressources économiques pour qu'ils soient pas dans des situations précaires.
Parce qu'aujourd'hui on a le sentiment quand même que hormis la SNCF, les grandes administrations françaises, il y a peu finalement d'entreprises qui s'engagent, ou quelques compagnies d'assurance, peu d'entreprises s'engagent auprès des athlètes comme ça.
Mais je crois que, vous savez, on a besoin
d'abord... On est en retard.
Oui, bien sûr, on doit faire beaucoup plus. C'est vrai que sur les athlètes, notamment ceux qui sont juste avant la haute performance, il y a énormément à faire. Et moi, j'ai justement mis dans mon programme beaucoup de choses sur les athlètes. Je voulais avoir que les athlètes aient une place importante. Et donc Astrid Guillard, qui est en train de se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo, va être secrétaire générale adjointe au sein de ma gouvernance. C'est elle qui aura en charge le dossier des athlètes. Et il y a beaucoup à faire, non seulement sur là maintenant pour les aider, mais aussi sur la reconnaissance d'un statut d'athlète de haut niveau, encore plus loin que celui qu'on a fait. Et puis aussi, du coup, sur les entreprises, leur dire, voilà, vous avez des problématiques, mais nous, on peut vraiment vous apporter des solutions. Et donc, c'est Astrid qui pourra aller défendre ce dossier, avec d'ailleurs Romain Giroux, que salue, qui sera son suppléant.
Et puisque ça s'appelle le téléphone sonne, n'oublions pas quand même les auditeurs qui sont là. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Fabienne Sinter, bonsoir madame, et bonsoir France Inter. Alors, je suis ravi de vous entendre, je suis ravi de votre nomination. J'aimerais vous poser une question existentielle, d'importance capitale. L'olympisme représente l'universalisme, l'humanisme. Vous savez que la planète est en danger et c'est une actualité récurrente actuellement, mais c'est un fait sérieux. J'aimerais savoir ce que, en tant que femme, et je suis également très féministe, vous allez faire pour
toutes ces
justement...
précautions, Jackie. Allez-y.
Oui, mais voilà. Merci. J'aimerais savoir ce que vous allez faire concrètement, justement, pour éviter une industrialisation du sport, le retour à des valeurs justement beaucoup plus humanistes du sport, et aussi arrêter peut-être aussi la bétonisation. Vous avez parlé de water polo, j'ai fait 5 ans de water polo au CMS Pantin, dans le 93. Mon père a été champion de France en 1962 de water polo.
Oui, enfin, moi, je suis championne de Val-de-Marne de tennis de table 1984, Jackie, je tiens à le dire.
Écoutez, voilà, on est en bonne compagnie. Okay. Et donc, voilà, je voulais savoir si, par exemple, les jardins de Pantin, les jardins d'Aubervilliers de Pantin, qui doivent être bétonnés pour les Jeux Olympiques, vous allez vous ériger contre cette gabegie, et qu'est-ce que vous allez faire au niveau écologique à votre poste et avec vos moyens, madame, et je vous félicite encore de votre nomination.
Merci beaucoup, Jackie. Il y a deux questions qui sont intéressantes dans ce que nous dit Jackie. D'abord, dans l'ordre, sur ce qu'il a appelé l'industrialisation du sport, en fait. On attend de vous, là aussi, une espèce de gouvernance différente, une image différente que celle qui parfois est véhiculée par le sport.
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans notre programme, cette utilité sociale et sociétale du sport, moi je dis, il faut pas qu'on fasse des choses pour le sport, en fait. C'est par le sport qu'on va pouvoir rendre notre société meilleure. Et tout ça, ça contribue vraiment au sport amateur dont vous parlez. C'est quoi le sport amateur? C'est justement cette reconnaissance par le travail. C'est venir dans des clubs. C'est tout simplement un encadrement de qualité. C'est là où on apprend le rapport à la règle. C'est là où on apprend le rapport à l'autorité. Et pour moi, c'est très important de se battre sur ce modèle-là. Vous savez que c'est le modèle européen, d'avoir en fait la solidarité du sport professionnel avec le sport amateur. Là, on va avoir une présidence à l'Europe l'année prochaine. C'est très très important de conserver ce modèle-là. Vous l'avez vu quand il y a eu la demande en fait de clubs professionnels, notamment de football, de vouloir créer une ligue privée fermée, où justement on allait perdre ce lien avec le sport amateur, qui est tout simplement le lien social et d'éducation de citoyens. Bah finalement, il y a tout le monde qui était vent debout pour pas que ça se fasse. Et voilà, moi dans mon programme, en tout cas, j'ai vraiment l'intention, et c'est écrit, hein, d'avoir une stratégie internationale qui permette justement au niveau de l'Europe de défendre ce modèle européen. Parce qu'on n'est pas ici, on n'est pas aux États-Unis, et même si on a plein de bonnes choses qui sont dans le sport, notamment à l'université aux États-Unis, et après avec le modèle justement de ligue fermée, ici nous en France, moi je ne souhaite vraiment pas en fait qu'on puisse aller vers ce modèle-là. Et c'est très important. C'est ce qui permet d'avoir vraiment le sport comme levier éducatif et citoyen.
Il y avait une sous-question dans la question de Jackie, et je voudrais vraiment qu'on y revienne. Je disais en introduction qu'il faut que vous nous appreniez à les aimer, ces JO, parce que c'est pas gagné d'avance, en fait. Et ce dont nous parle Jackie, la bétonisation, un certain nombre d'espaces verts qui sont sacrifiés, etc., ça a du mal à passer, ça a du mal aujourd'hui, ça aura probablement encore plus de mal en 2024. Là-dessus, les choses vont vite. Qu'est-ce qu'on lui répond, Jackie?
Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez raison, on a une vraie responsabilité en tant qu'institution de l'ensemble du mouvement sportif, et moi je dis toujours que voilà, déjà au niveau des clubs, c'est important cette éducation là et il y a énormément de clubs et de fédérations qui se sont engagés dans la transition écologique. Ça fait aussi partie, puisque j'aurai un vice-président en charge de la RSO, vous savez, la responsabilité sociale des organisations. Dedans, il y a énormément de choses sur la transition écologique. Dans un club, on apprend autant de choses que dans la famille et à l'école, donc ça c'est la première chose. Et puis en plus, on a des clubs vraiment, ils sont plein d'idées. Il y a plein de choses qui sont faites. Après, sur comment aimer les jeux, vous savez, on est à 3 ans des Jeux de Paris 2024. Ce qui est important de dire, c'est que pour moi, des jeux, ils peuvent être réussis que si déjà ils sont au niveau de l'organisation, c'est l'excellence.
Mais vous sentez qu'il n'y a pas d'élan, on va dire. Alors ça peut venir, hein, on ne sait pas comment ce qui va se passer dans les 3 années qui viennent, mais la grande fête, tout ça est un petit peu loin de nous, visiblement. Je pense que Tokyo ne nous aide pas, les conditions dans lesquelles Tokyo va avoir lieu dans 15 jours ne nous aident forcément pas, mais qu'est-ce que vous dites aux Parisiens surtout et aux Français en général d'ailleurs, parce que certains viendront, aimez vos jeux, comment on fait pour aimer nos jeux?
Alors ce que je sais, c'est que la période Covid a absolument pas aidé le fait d'avoir des rassemblements, des actions, les clubs étaient fermés, il n'y avait pas d'événements qui étaient possibles, donc ça forcément on n'a pas pu avoir tous ces rassemblements dont on a besoin. Après, moi je suis pas du tout inquiète vraiment sur la manière dont ces jeux vont rayonner et monter en puissance. Déjà, pour une première chose, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de villes qui sont labellisées terres de jeux. Ça veut dire quoi, labellisées terres de jeux? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actions récurrentes qui ont lieu avec les clubs, avec les les habitants. Et là, nous, avec le mouvement sportif, avec les 108 fédérations, on a déjà commencé à mettre en place un comité de pilotage de stratégie de mobilisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pendant toute l'année, là, pendant les 3 ans qui viennent, on va organiser des actions justement pour faire rayonner ces jeux. Et très sincèrement, je suis vraiment pas inquiète. En fait, c'est juste qu'il faut enclencher la machine. Et nous, on va le faire. Et les choses sont déjà faites. Franchement, la période Covid n'a pas aidé.
Non. Est-ce que vous avez peur d'ailleurs que Tokyo, pardon Stéphanie, est-ce que Tokyo vous ne vous aide pas particulièrement en fait, parce que les images qui vont être envoyées des JO de Tokyo, ça va être quand même une bulle sanitaire épouvantable. On sait bien qu'en 2024, on espère bien qu'on sera tous sortis de là, mais voilà les dernières images de jeux qu'on aura en tête. Qu'est-ce que vous allez y chercher vous à Tokyo?
Alors vous avez raison, ils sont très particuliers ces jeux parce qu'il y aura quand même une autorisation de 10 000 spectateurs, mais on voit bien là que les protocoles sanitaires sont très très lourds, les restrictions sanitaires sont très lourdes. Par contre là où je me différencie un peu de ce que vous dites, c'est que vous savez, le sport, la magie de l'exploit sportif, la Marseillaise qui va retentir, les médaillés, et puis également ceux qui seront champions des autres pays, ça franchement, ça procure tellement d'émotions, et on va pouvoir suivre ça en direct à la télé, et ça, Covid ou pas Covid, on va vibrer de la même manière. Si je vous donne un exemple, j'ai commencé mes fonctions dimanche soir en appelant les deux porte-drapeaux, Clarisse Abnegdenou et
Samir
Haïtaïn, qui sont super contents. Ça faisait plaisir à entendre.
Ouais. Mais franchement, voilà.
Comme Stéphane Houdet et Sandrine Martinet.
C'était un moment, même moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Et vous voyez, ça, c'est la magie des Jeux. On sait que, voilà, les Jeux Olympiques, c'est unique. Et ça, Covid ou pas Covid, on va vibrer et on a hâte.
Malgré tout, notre auditeur soulignait la partie infrastructure qui crée aussi du mécontentement local. On sait aussi qu'à Rio, comme à Londres, il y a eu au bout d'un moment une impopularité des Jeux parce qu'il y a eu une énorme facture pour créer les infrastructures. Vous le regardez sur le biais sportif, j'imagine, mais est-ce que vous avez voix au chapitre par rapport à ça, par rapport à Solideo, au comité d'organisation, à leur dire attention, à ne pas être trop impopulaire, à suivre vraiment et à respecter les populations qui vont être voisines des Jeux?
En tout cas, si vous regardez par exemple le palais éphémère qui a été construit au Champ de Mars, voilà, tout a été fait pour cette infrastructure, mais aussi plein d'autres, de telle manière à pas répéter en fait ce qui avait été fait dans certains pays. Je me souviens notamment à Athènes où en fait après les infrastructures elles étaient laissées à l'abandon. Donc là déjà c'est un exemple et en fait ça fait vraiment la partie de la stratégie non seulement de Paris 2024 mais du CIO. Donc voilà, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais il y a une vraie stratégie sur justement la transition écologique, de faire attention à tout. Quand vous allez sur justement à Pulse qui est l'endroit où est abrité le COJO, franchement tout est complètement innovant justement sur toute cette partie écologique. Et voilà, évidemment, on peut toujours faire mieux, mais il faut quand même savoir que ça fait partie des engagements de Paris 2024 et bien évidemment qu'on y est très 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 attentif.
Marc est à Nice sur franceinter.fr. Voilà ce qu'il vous demande en tant que vice-présidente de la Fédération française de football. Est-ce que vous avez aussi votre mot à dire sur l'équipe de France en ce moment et notamment pendant l'Euro? Est-ce que vous êtes dans ces discussions-là, Brigitte Henriques?
Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme tous les Français, j'étais très triste qu'on n'atteigne pas l'objectif d'atteindre les quarts de finale. On aura comité exécutif.
Voir les demi. L'objectif, c'était les demi.
Oui. Alors en fait, on avait
voir
déjà
gagner, c'est un fou.
Le minimum, c'était les quarts de finale. C'est vrai que se faire sortir pendant les huitièmes, ça nous a procuré beaucoup de tristesse. Comme je le disais, il y a encore quelques jours, on est encore à l'heure du bilan. Essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on n'a pas performé.
Mais vous avez votre mot à dire. Est-ce que vous êtes consulté quand on commence à se poser la question des champs, pas des champs, etc.? Ça arrive jusqu'à votre bureau, ça? Ou est-ce que ça reste dans un précaré qui est celui notamment de Noël Le Graët et personne d'autre?
En fait, sur ces discussions-là, Noël Le Graët le reçoit demain et à Guingamp. Et voilà, ils vont avoir des échanges pour notamment comprendre les raisons pour lesquelles on n'a pas performé. Et donc, on en saura plus dans quelques jours.
Bertrand est en Haute-Saône sur franceinter.fr. Il nous dit « Je suis le directeur d'un club de sport et de football. Pardon. On est passé de 60 à 200 licenciés et 40% d'effectifs féminins. Je trouve ça important, dit-il, d'ouvrir le sport à tout le monde. Et surtout, nous dit-il, en milieu rural, Brigitte Henriques, il a raison, notre ami Bertrand. Et il n'y a pas que les villes, en effet. »
Oui, il a complètement raison, Bertrand. Et en plus, ce qui est important de dire, c'est que quand tout à l'heure je disais l'importance du club, c'est c'est que souvent dans les villages, en fait, c'est le dernier endroit quand il n'y a pas de boulangerie, quand il n'y a plus de café, c'est le seul endroit où en fait la population peut se retrouver, avoir un lieu de vie. Et je pense que c'est important justement d'accueillir les jeunes filles, et surtout pour ce lien social, cette cohésion. Et c'est vrai qu'on parle des milieux ruraux, mais on peut parler aussi des quartiers populaires, où là aussi c'est très important que les jeunes filles elles puissent venir pratiquer. Des fois, il faut aller convaincre qu'elles ont aussi leur place dans les clubs, qu'elles peuvent venir et aller les chercher souvent pour pouvoir les emmener, parce qu'il n'y a pas toujours la disponibilité des parents pour lesquels ça peut être parfois compliqué. Donc il y a tout un travail à faire, et en tout cas dans le programme du CNOSF, on sera très engagé à accompagner les fédérations pour qu'il y ait davantage de pratiquantes.
Justement, la situation actuellement pour les clubs en France, au cœur de l'hiver, votre prédécesseur disait que 3 clubs sur 4 subissaient une perte de licenciés, 4 sur 5 une perte de recettes. Est-ce que les aides qui ont été promises sont arrivées, ont compensé? Est-ce qu'il y a un frémissement là pour les inscriptions à la rentrée? C'est quoi l'état des lieux?
Alors là, la période Covid, elle a été aussi dramatique pour nos clubs. Il y a des clubs, effectivement, et des fédérations qui ont perdu plus de 50% des licenciés. Mmh. Donc, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir, à la rentrée, relancer la machine. La première chose, c'est que là, il y a le passeport qui est mis en place, avec 50 € de réduction pour ceux qui sont éligibles à la CAF. Pour le CNOSF, c'est un enjeu majeur d'aider les clubs à créer. Alors, parce qu'il faut créer un compte asso qui permet justement de bénéficier du remboursement de ces 50 € par licencié qui sont éligibles. Alors ça paraît rien, mais rien que ça va nous prendre 2 mois.
Donc ça veut dire encore une formulation administrative pour les clubs.
Exactement.
Quoi.
Ensuite, le gouvernement a donné des fonds de compensation, justement pour notamment avec l'ANS, avec plus de 10 millions d'euros. Là encore, toutes les enveloppes n'ont pas toujours été consommées, parce que justement les bénévoles, il faut les accompagner pour tout ça, donc ça va être un enjeu important. Et puis la dernière chose, c'est que voilà, on a vraiment hâte qu'à la rentrée, que les clubs réouvrent, ça va relancer la machine. On aura une grande campagne de communication avec tous les acteurs du sport, mais voilà, je lance le message, il faut retourner dans les clubs, c'est la vie, il faut faire du sport, c'est important et ça rend heureux, donc retournez vous inscrire le plus tôt possible.
Est-ce que vous savez, pardon, juste pour continuer sur exactement ce que vous dites, est-ce que vous savez s'il y en a qui fermeront? Est-ce qu'on peut se dire, c'est terrible de le dire comme ça, mais comme on regarde aujourd'hui les restaurants, les bars par exemple, en se disant celui-là ne rouvrira jamais, celui-là non plus, est-ce que c'est le cas aussi de certains clubs, de beaucoup de clubs? Est-ce que cet état des lieux, il est fait déjà ou pas?
Alors en fait, sur la fermeture des clubs, c'est beaucoup moins important que sur la fermeture des... Enfin, pardon, pas sur la fermeture, mais sur la perte des licenciés. C'est vraiment les licenciés, en fait, qui ont... Mais les clubs en soi, j'ai pas ce retour d'information. Par contre, les licenciés, il y a vraiment des très très grosses pertes. Et c'est vrai qu'à 3 ans des Jeux, on a besoin d'être soutenus, et notamment sur les cadres techniques d'État, qui sont fournis justement par le ministère des Sports et par le gouvernement. On a vraiment besoin à 3 ans des Jeux d'être entendus sur le fait qu'on a besoin d'eux. C'est eux, vous savez, qui sont au sein des fédérations et qui vont en fait au contact des clubs, justement pour relancer la machine. Et c'est vrai que sur ça, on a vraiment besoin d'avoir des moyens à la hauteur de non seulement de la relance du Covid-19, mais aussi pour Paris 2024.
Ne dites pas la relance du Covid-19.
Pardon, malheureusement. Plan de relance, parce que tous les plans s'appellent les plans de relance Covid-19.
Mais fait, justement, est-ce que vous avez la confirmation, ou en tout cas l'assurance par le ministère ou le gouvernement, qu'à la rentrée, s'il y a une nouvelle vague, on ne fermera pas les clubs comme on a fait à chaque fois depuis un an?
Alors, avec l'arrivée du variant Delta, je vous avoue qu'on est en plein dedans. En fait, là, on est en train d'organiser justement avec le ministère des Sports une période dégradée à la rentrée. C'est dur de se remettre dans ces protocoles-là, donc on vient nous de lancer...
Pour la rentrée, vous organisez déjà des protocoles dégradés?
En fait, on anticipe, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la même situation. Donc en fait, on vient juste de commencer, hein, ça date d'aujourd'hui. On a une consultation avec les fédérations, on va réunir les médecins fédéraux, les directeurs techniques nationaux, voilà, pour dire si jamais à nouveau on est confronté à ça, qu'est-ce qu'on met en place, de la pratique, voilà, enfin vraiment comme on a fait au moment du mois de mai 2019, vous savez, où en fait c'était des pratiques alternatives sans contact, etc. Mais oui, on a déjà pensé à ça, et je vous avoue,
ça sera prêt au cas où, ou ça sera appliqué quoi qu'il arrive?
Ça sera préparé au cas où.
D'accord.
Est-ce que, du coup, qu'est-ce que vous avez appris, justement? Est-ce que vous savez déjà qu'il y a des choses que vous ne ferez pas, qu'on a fait, peut-être pas en mars 2020, mais ensuite, pendant les deuxièmes ou troisièmes confinements, vous avez senti que vous avez créé un vrai manque, qu'il y a des choses qui fonctionnaient pas. Est-ce que vous savez aujourd'hui, ça, on ne le refera pas? Alors, je sais pas, est-ce que c'est,
les sports en salle, les piscines?
Les sports en salle, l'autorisation des piscines, les jauges ou demi-jauges pour les gamins le mercredi ou le samedi, etc.
Moi, je très sincèrement, ce que je sais, c'est que je m'étais déjà battu en mai 2019 en disant laisser nos clubs ouverts parce que c'est là qu'on arrive à gérer la gestion de la pandémie, tout simplement parce qu'il y a des éducateurs, il y a de l'encadrement et que du coup la pratique libre elle n'a pas lieu, elle n'est pas encadrée. Quand on voyait des matchs de foot pendant la pandémie, on voyait des matchs de basket, les gens n'avaient respecté pas les gestes barrières. Dans les clubs, c'est possible de le faire ça. Donc déjà se battre pour que les clubs restent ouverts, c'est très important. Même on voit bien psychologiquement, c'était difficile, même pour les parents, de pas emmener les enfants, pas emmener les enfants dans les clubs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les référents Covid, on les appelle comme ça dans les clubs, il y a 3,5 millions de bénévoles dans nos clubs. Ces personnes-là, elles sont formées, donc ça veut dire qu'elles sont à même de gérer une nouvelle pandémie sur le respect des gestes barrières, les distances, et puis effectivement le port du masque, et puis les pratiques alternatives où justement les distances sont respectées. Donc voilà, en tout cas, on sait faire maintenant.
Marc, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, bonjour et félicitations à la toute récente nominée. Et puis félicitations aux équipes d'Inter qui font toujours de très bonnes émissions. Et je voudrais savoir, est-ce que je pourrais faire un petit aparté avant de poser une petite question, s'il vous plaît?
Ça dépend sur quoi, mais allez-y, Marc.
Sur l'olympisme, c'est pour dire que quand l'olympisme se passe en France, il y a une certaine fascination. Mm-hmm. Je ne suis plus tellement pratiquant, mais je me rappelle fort bien de ma dernière participation en tant que figurant. C'était lors de l'arrivée de la flamme olympique à Paris pour les JO d'Albertville.
Ouais.
Et je sais que ça m'avait donné de forts mouvements, de forts moments de passion et de d'émotion. Mmh. Puisque j'avais même participé à une épreuve de ski roue au cours de laquelle j'avais croisé les futurs champions olympiques de ces spécialités. Voilà.
Ouais, merci Marc, parce que je sais que vous avez autre chose à ajouter derrière, mais Brigitte Henriquez, juste pour faire un aparté, voilà, Marc, je vous lâche pas juste... Marc, hein, bougez pas juste une seconde, mais voilà, faire participer les gens autour, leur montrer ce que c'est d'extrêmement près, leur permettre d'approcher les athlètes, de leur parler, de participer à des choses, c'est ça la clé aussi.
Hein. Et bien là, vous allez voir justement le parcours de la flamme qui va aller dans plusieurs villes au moment où il y aura justement la transmission de la flamme olympique, et on est en train de voir justement avec les villes, avec les clubs, de quelle manière on va pouvoir organiser ça, parce que moi je suis aussi d'accord, je trouve que les Jeux olympiques c'est vraiment quelque chose d'unique et on a besoin de faire partager ça. Et par rapport à ce que vous avez dit ensuite, il y aura à la Villette vraiment plein d'animations qui seront mises en place avec le Club France, avec une fan zone pour l'ensemble des épreuves, et évidemment qu'il y aura des athlètes qui vont venir là et qui vont faire rêver nos jeunes.
Marc, il y avait une suite à votre question, j'ai pas oublié, je vous écoute.
Alors, la petite question, c'est pour savoir s'il est prévu déjà pour les Parisiens et surtout les Franciliens dont je fais partie, des promotions, des tarifs attractifs pour assister aux compétitions. Voilà, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu, des prix promotionnels, voilà, des choses comme cela.
Alors, très sincèrement, la stratégie billetterie, je suis pas certaine qu'elle ait été encore dévoilée. Il faut dire que le Comité national olympique sportif français, lui, n'est pas organisateur des Jeux, donc je suis navré de pas d'avoir l'information exacte ce soir. Mais je crois que la stratégie billetterie, très sincèrement, avec le COJO, qui est l'organisateur des Jeux olympiques, et d'ailleurs, ça sera aussi paralympique, avec Tony Estanguet, en fait, à mon sens, il est un peu tôt pour qu'elle soit dévoilée et mise en place, donc j'en ai pas connaissance, mais promis, on communiquera dessus, en tout cas. J'espère que ça sera le cas.
Tout autre chose, et encore que, d'ailleurs, Amélie est à Nantes et nous dit ceci: le retrait soudain de Roland Garros de la tenniswoman japonaise Naomi Osaka a mis en lumière la question de la santé mentale des sportifs de haut niveau. Allez-vous mettre en place des structures, recruter des psychologues par exemple, pour mieux prendre en compte le burn-out des sportifs?
Alors justement, la cellule de haute performance qui a été créée au sein de l'Agence nationale du sport, elle a été créée justement pour que ces athlètes-là puissent avoir tout l'accompagnement nécessaire. Donc dedans, il y a vraiment tout ce qui est lié à la performance et ça en fait partie. Et aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup d'athlètes aussi qui ont leur propre coach mental, qui ont un accompagnement de cet ordre-là. À l'INSEP, où il y a l'ensemble de... C'est notre fabrique à champions, l'INSEP. Et c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération.
J'ai monté une association qui défend les enfants victimes de violences sexuelles et sexistes, nous dit Blandine, qui habite dans les Landes et dans le milieu sportif. L'association des Colosses au pied d'argile, donc c'est dans les Landes. Y a-t-il des mesures qui sont prises au sujet de ces violences sexuelles et sexistes?
Oui, c'est vraiment un sujet vraiment très très important, pas que dans le sport, parce que ça se passe aussi dans la société. Donc on doit prendre nos responsabilités pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Le ministère des Sports a lancé un grand plan de lutte contre les violences sexuelles, avec notamment un guide, mais pas que, avec tout un tas de mesures, et l'ensemble des fédérations doivent être encore plus actives. Alors il y a des fédérations qui avaient déjà pris ce sujet, alors ça passe par de la sensibilisation, de la formation, des référents, comment on signale, qu'est-ce qui peut faire prendre en considération
des fiches d'observation. Est-ce qu'on signale mieux et plus? Parce que quand ces affaires ont éclaté, effectivement, on a bien vu jusqu'à quel point il y avait un besoin de le dire et qu'on manquait la personne à qui le dire, évidemment. Ce sont des enfants qui sont vraiment très petits. Est-ce qu'on signale mieux et plus aujourd'hui?
Alors oui, on signale mieux, puisque aujourd'hui, le ministère des Sports a montré qu'il y avait 485 signalements. Mais il faut continuer encore surtout sur la prévention, sur la sensibilisation. Et c'est vrai que de savoir à qui prévenir dans ce cas-là, mais surtout, en fait, pour les éducateurs aussi, être formés sur ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, bien évidemment, mais aussi déceler en fait les changements de comportement des enfants. Et simplement, je voudrais dire qu'avec le Comité National Olympique Sportif Français, moi j'ai choisi Catherine, vous savez, Moyon de Baec, hein, qui a été victime de violences sexuelles il y a plusieurs années, il y avait eu le procès, elle l'avait gagné, et malheureusement elle avait été bannie de l'équipe de France ensuite par la suite, on l'a pas vue, et elle avait témoigné avec Sarah Abitbol le 21 janvier il y a deux ans, quand justement tous les ministres s'étaient réunis pour faire de cette cause une cause nationale. Voilà, et je sais que Catherine, elle l'a déjà fait, elle va intervenir devant les présidents de fédération, elle va intervenir aux AG des fédérations, parce que je trouve que cette parole-là, le fait de ce vécu, permettra vraiment de réaliser à quel point on doit se battre pour plus que jamais ça n'arrive.
Aujourd'hui, chaque fédération a son référent.
Oui.
Toutes les structures, toutes les fédérations de sport en France ont leur
Oui, depuis le 21 janvier, il y a deux ans, oui, ça a été une obligation, et au-delà d'avoir juste un référent au sein du CNOSF, mais aussi avec le ministère des Sports, il y a vraiment des rendez-vous réguliers où on entend la justice parler des mesures qu'il faut prendre. Voilà, il y a tout un accompagnement qui est fait et c'est important.
Charles, qu'on n'arrive pas à joindre, mais qu'on salue, je le vois ici, nous dit ceci, nous demande ceci. Dans quelle mesure le vaccin sera obligatoire pour les futurs sports, pour les sportifs?
Alors là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller à Tokyo, on ne va pas à Tokyo si jamais on n'est pas vacciné. On est en train de travailler justement sur ce qu'on appelle le pass sanitaire. Et voilà, c'est aussi, ça fait partie de ce qu'on anticipe. Donc, on sait aujourd'hui que par la loi, on ne peut pas obliger, mais en tout cas, nous, on va inciter vraiment nos pratiquants et nos licenciés à se faire vacciner, parce que sinon, ça va être compliqué de pouvoir.
On anticipe ça aussi pour la rentrée, par exemple, quand vous dites qu'on est en train de voir ce qui va se passer, ça veut dire, je sais pas moi, passe sanitaire à l'entrée des piscines, passe sanitaire à l'entrée des gymnases, pour prendre une licence.
En tout cas, on va inciter en disant que voilà, il faut absolument garder cet équilibre de pouvoir pratiquer dans les clubs et que si on veut pouvoir s'inscrire, ça serait beaucoup mieux d'être vacciné, et on va en tout cas continuer notre mobilisation sur le fait que se vacciner, c'est important.
On y revient toujours, Brigitte Henriques. Merci beaucoup. Merci vraiment de votre passage dans le téléphone sonne. Merci Stéphanie beaucoup. Et merci à tous pour vos questions.
Bonne soirée.